La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une société à secret, au sens des secrets d'initiation partagés par les frères dans l'enceinte feutrée, discrète du temple. Cette sociabilité, caractéristique du XVIIIe siècle, s'inscrit dans le cortège des formes de sociabilité traditionnelles de l'Ancien Régime, confrérie et académie. Mais elle a quelque chose de radicalement neuf, c'est-à-dire qu'elle permet à des hommes et des femmes, sur une base volontaire, sur une base individuelle, de se retrouver et de cultiver les liens de l'entre-soi, de tisser de nouveaux liens sociaux. Et en loge, on pratiquera, comme on le verra plus loin, aussi bien les activités proprement symboliques, proprement maçonniques, mais aussi toute la palette des activités que le XVIIIe siècle propose à l'amateur, dès lors qu'il appartient aux strates intermédiaires et supérieures de la société. Le théâtre, la musique, le dessin, la peinture, mais aussi les divertissements lettrés et mondains, la danse. Traditionnellement, la naissance de la franc-maçonnerie est datée de juin 1717, lorsque quatre loges de Londres se réunissent pour former la Grande Loge de Londres. Et sur la première édition des constitutions dites de 1723, dites encore d'Anderson, par référence à James Anderson, pasteur presbytérien qui est le rédacteur des constitutions, eh bien, la Grande Loge se dote d'un texte fondateur qu'on considère encore aujourd'hui comme l'un des piliers de la franc-maçonnerie à travers le monde. Ce texte explique à un moment donné la nécessité pour les hommes du XVIIe et du XVIIIe siècle de se retrouver par-delà les conflits religieux, politiques, linguistiques, par-delà la guerre civile, pour retisser un lien social, et ça explique le succès formidable et extrêmement rapide de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Une carte des naissances attestées des premières loges au XVIIIe siècle permet de réaliser à quel point cette expansion est à la fois globale et rapide. En quelques années, la franc-maçonnerie s'implante sur le continent européen, aussi bien à Gibraltar qu'aux Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, qu'à Paris, en 1725, qu'à Bordeaux en 1733, mais dans le même élan, elle s'implante tout au long de la botte italienne et au-delà jusqu'en Sicile, ainsi que en Europe centrale et orientale, au sein du Saint-Empire, hein, notamment via Hambourg, c'est-à-dire un port, via aussi une ville de cour, Dresde, Berlin, bien sûr, avec Frédéric II de Prusse, et au-delà, jusqu'aux marges de l'Europe, si bien l'Empire ottoman, donc la Turquie contemporaine et ses territoires vassaux, que la Russie avec les provinces baltes qui lui appartiennent, ou la Scandinavie. Alors bien évidemment, ce succès intrigue, suscite de nouvelles affiliations, la franc-maçonnerie est à la mode, mais inquiète aussi. Inquiète parce que les francs-maçons prêtent serment de respecter un secret. Et là, il y a un malentendu fondamental sur le secret, puisque ce secret est moins le secret de politique, religieux et à quelques contenus dangereux que le secret de cette initiation qu'ils ont en partage et qui maintient le profane à l'extérieur du temple. Profanum, littéralement, c'est celui qui reste à l'extérieur du temple et donc, à partir du moment où il n'est pas initié, il n'a pas le droit d'entrer. Donc, dans le temple des francs-maçons et de participer au mystère de l'art royal, puisque c'est le nom que l'on donne à la franc-maçonnerie à cette époque. Un texte fondamental pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle est le discours manuscrit du chevalier Andrew Ramsay, daté des années 1737 et 1738 selon les versions. Alors, ce discours a une diffusion relativement restreinte, c'est évident, à cause de son caractère manuscrit. Néanmoins, plusieurs histoires de la franc-maçonnerie, plusieurs histoires des valeurs maçonniques et des constitutions de la Grande Loge, l'intègrent donc dans leurs publications et lui permettent d'avoir une large diffusion. Ce discours est intéressant parce que il est rédigé en France par le grand orateur de la Grande Loge, mais cet homme est un Écossais réfugié en France, justement lors des guerres civiles qui déchirent l'Angleterre. Il est le protégé de Fénelon et il aspire pour la franc-maçonnerie française à une reconnaissance par la monarchie, c'est-à-dire par Louis XV et son principal ministre Fleury. Et il insiste dans ce texte sur la dimension à la fois aristocratique, mondaine, culturelle de la franc-maçonnerie, sur sa dimension chevaleresque et chrétienne, les francs-maçons héritiers des croisés, porteurs d'un projet encyclopédique, c'est la référence à la Cyclopédia de Chambers en Angleterre, on n'en est pas encore à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais en tout cas un art libéral, comme on dit au XVIIIe siècle, qui serait le dépôt de tous les savoirs du monde. Et ce texte-là explique notamment le formidable succès de la franc-maçonnerie française qui insiste sur son caractère chevaleresque, aristocratique et mondain, et toute une série de démonstrations, toute une série de descriptions dans des ouvrages à la fois maçonniques comme profanes viennent illustrer le caractère particulièrement recherché de ces fêtes maçonniques, non seulement à Paris, mais aussi en province. Le cosmos maçonnique est au cœur du projet des Lumières. Il se définit comme l'œcumène ou encore l'œcumène qu'on retrouve dans le terme contemporain œcuménisme lorsqu'il s'agit de la réunion de toutes les églises. Et effectivement, le projet maçonnique, c'est la réunion des frères dispersés sur les deux hémisphères, selon l'expression consacrée de l'époque, c'est-à-dire de réunir l'ensemble des francs-maçons. Ils sont dispersés aux quatre coins du monde depuis la chute de Babel. En effet, si le temple de Salomon est un symbole maçonnique bien connu avec son architecte Hiram, en réalité au XVIIIe siècle, l'un des symboles forts du projet maçonnique, c'est la tour de Babel. On se souvient que dans les Écritures, Dieu avait puni l'orgueil démesuré des hommes, l'hubris grec, d'une certaine façon, en les rendant incapables de communiquer les uns avec les autres. Donc ils avaient perdu cette langue commune qui les rendait capables de coordonner leur chantier, celui de Babel. Et le projet maçonnique au XVIIIe siècle, c'est précisément par-delà la multiplicité des langues, des états, des nations en devenir, des religions, des confessions qui se sont déchirées tout au long des XVIe et XVIIe siècles, de redresser Babel, d'élever à nouveau un temple à la gloire du grand architecte de l'univers, ce qui est l'expression du XVIIIe siècle. Ce grand architecte de l'univers, bien évidemment, c'est Dieu, mais un Dieu, même s'il est largement interprété comme le Dieu des chrétiens, où chacun peut s'identifier selon ses croyances. Et cette nouvelle Babel, celle qui rendrait à nouveau un espace de communication harmonieuse, solidaire entre les frères, c'est le grand projet de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Et pour bâtir ce projet architectural, symbolique bien évidemment, d'une nouvelle Babel, les francs-maçons ont notamment décliné toute la généalogie des grands architectes depuis Vitruve dans l'Antiquité, à l'époque du Principat d'Auguste, jusque à Sir Christopher Wren, le bâtisseur de Saint-Paul à Londres après le grand incendie du XVIIe siècle. C'est bien évidemment une généalogie largement mythique, mais qui est fondatrice pour eux de leur projet. Leur projet, c'est de repousser les colonnes du temple jusqu'aux extrémités de l'univers. Et c'est en ça que c'est un projet œcuménique au vrai sens du terme. Alors concrètement, ce projet de réunion de ce qui est épars, ce projet de réunir des frères dispersés, se décline en quatre modèles. Le premier modèle est celui de la stricte observance templière. C'est une réforme maçonnique qui naît en Saxe, comme la réforme luthérienne, 2 siècles plus tôt, et qui veut réformer l'ordre maçonnique à partir des années 1760, parce qu'il trouve qu'il s'est dévoyé, qu'on a accueilli des frères qui ne méritaient pas de le devenir, et qui veut refonder l'ordre sur des principes à la fois chrétiens et chevaleresques. Volontairement, ce projet est anachronique au XVIIIe siècle, puisqu'il veut effacer les fractures confessionnelles pour rapprocher les francs-maçons, catholiques et protestants. Alors bien évidemment, le succès est mitigé, simplement parce que les catholiques pensent que le projet fait la part belle aux protestants, et les protestants pensent que le projet vise à les convertir au catholicisme. Et il n'empêche, c'est un projet fort qui a de nombreux adeptes dans ce qu'on appelle la maçonnerie templière, puisqu'il revendique l'héritage des Templiers. Et par exemple, on voit un prince valaque, donc dans la zone tampon entre les Habsbourg et l'Empire ottoman, proposer de lever 40 000 chevaliers maçons qui vont stationner aux bornes de l'Europe face à l'Empire ottoman. On retrouve des questions sensibles à l'époque contemporaine sur la présence ou non de la Turquie en terre européenne. Et ce projet, bien évidemment, soutenu par les frères russes, parce qu'à ce moment-là, la Russie est en conflit avec l'Empire ottoman, puisqu'elle veut progresser dans le Caucase et en direction de la mer Noire. Deuxième modèle, qui est un modèle tout à fait différent, celui de la Grande Loge de Londres, née en 1717, comme nous l'avons vu précédemment, et qui se rapproche de ce que sera l'Empire britannique au XIXe et au tout début du XXe siècle, c'est-à-dire un Commonwealth, une richesse commune, avec à la fois une mère patrie qui contrôle les relations internationales, qui organise l'espace, et en même temps des dominions, des territoires qui sont dotés d'une très large autonomie interne, dans la mesure où ils reconnaissent, ils font allégeance à la mère patrie. Mais c'est exactement la même chose sur le plan maçonnique. La Grande Loge de Londres, devenue Grande Loge d'Angleterre, revendique ce qu'elle nomme une maternité universelle, et elle attend de ses loges filles, des grandes loges provinciales, qu'elles reconnaissent cette autorité et cette prééminence. Dans la mesure où elles reconnaissent cette autorité, elles ont ensuite une très forte autonomie interne. Ce modèle connaît un vrai succès, tout simplement parce qu'il y a le prestige du modèle de la maçonnerie anglaise d'une part, et ce qu'on appelle au XVIIIe siècle l'anglomanie, c'est-à-dire le succès extraordinaire de tout ce qui vient d'Angleterre. Troisième modèle, et il est directement concurrent du précédent, c'est le modèle français. Ce n'est plus du tout un modèle à large autonomie interne comme chez les Britanniques. C'est un modèle où le Grand Orient de France se pose en Grand Orient national, ou, je cite, en centre national de l'Union. Il revendique donc non plus une autonomie, mais une souveraineté complète sur l'ensemble de son ressort, identifié aux frontières politiques du royaume, ce qui pose problème pour un projet maçonnique qui se veut cosmopolite. Et le Grand Orient de France ne reconnaîtra donc de puissance maçonnique que des grandes loges nationales, par exemple la Grande Loge nationale de Suède animée par le baron Schaeffer, que donc des grandes loges nationales comme le Grand Orient de Pologne aussi ou le Grand Orient de Venise, dès lors que ils seront installés dans des États indépendants, souverains, et avec lesquels il pourra conclure à la fois des alliances et des traités d'amitié. Donc on a un véritable droit maçonnique international qui se met en place, des traités sont signés, l'objectif c'est de sanctuariser chaque ressort de Grande Loge nationale. C'est un modèle qui aura un grand succès au XIXe siècle, bien évidemment à cause de l'État-nation et des nationalistes, mais qui pose toute une série de problèmes aux francs-maçons des Lumières qui refusent encore ces frontières. Et notamment, on voit les maçons marseillais de Saint-Jean d'Écosse, rivales du Grand Orient, revendiquer la nature cosmopolite, je cite, et libre du corps maçonnique. Dernier modèle, le plus atypique et peut-être en même temps le plus significatif du siècle des Lumières, le modèle utopique, littéralement, c'est-à-dire le lieu de nulle part, le lieu de nulle part où les francs-maçons vont créer leur cité idéale. Souvent, et depuis Thomas More, l'utopie se décline sur le mode insulaire, bien les francs-maçons font la même chose. Leur Le continent vierge par excellence du XVIIIe siècle, c'est l'Australie, future colonie pénitentiaire pour les Anglais. Les francs-maçons rêvent de faire un État maçonnique. Il y a des propositions aussi d'implantation au Labrador, qui paraissent bien évidemment peu réalistes compte tenu du climat, ou alors à un niveau de micro-utopie, des îles méditerranéennes comme Lampedusa ou Limosa, que les francs-maçons pourraient acheter pour créer un modèle donc de société harmonieuse et fraternelle dans lequel ils pourraient s'épanouir. Dans tous les cas, ces modèles, donc qui sont des modèles théoriques, des modèles diplomatiques et des modèles de représentation, doivent ensuite se concrétiser si l'on veut faire vivre ce que Joseph de Maistre appelle la République universelle des francs-maçons, et cela passe tout simplement par la mise en place de réseaux et de dispositifs donc d'aide à la circulation des frères au sein de la République universelle des francs-maçons et à leur reconnaissance comme citoyens de cette République universelle. On n'a jamais autant voyagé qu'au XVIIIe siècle. À propos du siècle des Lumières, Daniel Roche parle d'humeur vagabonde. Et cette culture de la mobilité des élites européennes interroge nécessairement fortement la franc-maçonnerie. Elle interroge notamment le cosmopolitisme des frères, c'est-à-dire leur profession de foi, de fonder la République universelle de francs-maçons et de créer des citoyens d'univers. Dans cette perspective, les francs-maçons ont choisi d'offrir aux élites européennes un exceptionnel dispositif de gestion de leur mobilité, qui passe d'abord par la correspondance. On parle du XVIe au XVIIIe siècle de la République des lettres, et il faut prendre la lettre au sens premier du terme. On écrit énormément. Les hommes des Lumières sont de formidables épistoliers. Ils ont une culture et une pratique épistolaire extrêmement développées. Et les francs-maçons ont cette culture épistolaire, à la fois en tant qu'individu, en tant que frère, mais aussi en tant qu'institution, au niveau des loges comme au niveau de leurs obédiences, Grande Loge ou Grand Orient. Si l'on regarde les tableaux de correspondance, on se rend compte qu'ils sont intimement imbriqués, étroitement articulés, notamment à travers les quatre cartes qui figurent les réseaux de correspondance d'une loge de Metz, de Palerme, de Marseille et de Reims. On voit que des loges qui sont éloignées les unes des autres sont parfaitement articulées, que l'on peut aller d'un réseau de correspondance à un autre. Cette activité épistolaire, elle est extrêmement forte également entre une loge mère, comme Saint-Jean d'Écosse de Marseille, et ses loges filles, qui sont d'authentiques filiales, qui parfois deviennent des franchises. Et chacune d'entre elles, lorsqu'elle a acquis suffisamment de maturité, développe son propre réseau de correspondance. Au point que des frères, comme le frère Meunier de Précourt à Metz, mais ensuite jusqu'à Saint-Pétersbourg, rêvent d'une correspondance maçonnique universelle, d'un bureau général de correspondance. Réfléchissent à la question des langues, de la koiné, c'est-à-dire cette langue qui permettait aux Grecs, par-delà les dialectes, de se comprendre et qui distinguait les Grecs des barbares. La koiné maçonnique au XVIIIe siècle, c'est pour les uns le français, pour d'autres le latin. Pour d'autres encore, la solution, c'est des courriers et des lettres en deux langues, des courriers bilingues, comme les passeports dont nous parlerons dans quelques instants. Pour certains encore, la solution, par-delà la prétention à l'hégémonie de la France ou de l'Angleterre, c'est le choix d'une langue nouvelle, artificielle. Ce rêve d'une langue maçonnique universelle donnera naissance à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, à l'aventure de l'espéranto. Pour l'instant, outre la correspondance, la franc-maçonnerie offre à la République universelle des francs-maçons, des frères, un autre dispositif extrêmement précieux, celui du certificat que Joseph de Maistre présentera sous forme d'un passeport pour la lumière, à l'époque où précisément en Europe se développent les signalements, le contrôle aux frontières. Ce certificat garantit votre qualité de maçon, mais ça va bien au-delà. Ce certificat vous permet d'activer à distance le lien fraternel en imposant, moralement, bien évidemment, aux frères que vous allez solliciter, tout simplement de vous ouvrir non seulement les portes de leur temple, mais aussi de vous donner droit au secours, aux aides qui vous permettront de poursuivre votre voyage en cas de difficulté. En un siècle où on se bat 3 années sur 4, c'est quelque chose là de tout à fait essentiel. Alors, ce certificat a tellement de succès qu'il doit être imprimé parce que les secrétaires des loges sont totalement débordés par les demandes de certificats manuscrits. Donc, il devient imprimé, il devient standardisé, notamment avec des descriptions physiques des frères pour éviter les usurpateurs. Et au-delà, on a une circulation qui s'intensifie tout au long du XVIIIe siècle. Outre ce certificat et la correspondance, on voit l'apparition de loges spécialisées dans l'accueil des visiteurs. Bien évidemment, ce sont d'abord les loges portuaires. Saint-Jean d'Écosse de Marseille, dont nous avons parlé il y a quelques instants, est la loge de la Chambre de commerce de Marseille. Marseille et Bordeaux étant les deux principaux ports français à l'exportation au XVIIIe siècle, avec de très fortes colonies étrangères. Dans ces conditions, Marseille irrigue du lien maçonnique l'ensemble du bassin méditerranéen, mais pousse aussi jusque dans l'océan Indien, avec notamment le rôle de la diaspora arménienne, qui active à la fois le lien maçonnique et le lien commercial avec cette région, mais aussi dans les Antilles, parce que l'économie de plantation connaît à l'époque un succès extraordinaire avec la traite négrière, bien évidemment, mais aussi les produits coloniaux, l'indigo, le coton, le sucre, le café, qui sont redistribués via ce que Charles Carrière appelait le port mondial, à destination de l'ensemble du continent européen. Même phénomène dans l'Europe du Nord avec la bien-aimée d'Amsterdam. Cette fois, c'est la loge de la Bourse d'Amsterdam. Et nous avons une extraordinaire source documentaire. Pendant 40 ans, la loge a tenu un livre d'or où chacun de ses visiteurs a noté sa qualité, maçonnique et profane, son nom, le frère qui l'a introduit dans la loge et la date de sa visite. Et la carte des visiteurs de la bien-aimée entre les années 1750 et le début des années 1790 permet de comprendre l'extension européenne et mondiale de l'ordre, puisqu'on a des francs-maçons qui viennent jusque de Guyane hollandaise, du Suriname, mais aussi du Cap ou de Batavia, l'actuelle Jakarta en Indonésie. Donc on a un phénomène mondial et complète le dispositif des loges encore plus spécialisées. Par exemple, la Candeur à Strasbourg, la loge de l'université luthérienne qu'on appelait à cette époque-là la loge de l'université des princes, puisqu'on venait de toute l'Europe étudier à Strasbourg. Et les étudiants strasbourgeois s'affilient massivement à la loge en question. À cette loge, on peut ajouter pour les étudiants irlandais en médecine, l'Irlandaise du Soleil Levant à Paris, et quelques autres encore, notamment pour les réfugiés politiques, par exemple les vrais Bataves à l'Orient de Dunkerque qui accueillent les patriotes bataves exilés suite à l'échec de la première révolution batave. Il ne faudrait pas imaginer qu'au nom du cosmopolitisme et de la profession de foi des Lumières des francs-maçons, que tout le monde, que tout s'y confond, comme on dit au XVIIIe siècle, notamment sous la plume de Mgr de Belzunce, qui est l'évêque de Marseille au début des années 1740. Bien au contraire, le cosmopolitisme maçonnique n'est pas un universalisme militant. C'est un cosmopolitisme mondain, aristocratique, qui réunit ce que l'on, en grec classique, on appelait les kaloi kagatoi, les beaux et les bons, c'est-à-dire l'aristocratie, les meilleurs, quel que soit le pays européen dont ils sont les ressortissants. Donc on a brutalement un resserrement de la République universelle des francs-maçons jusqu'au contour de ce qu'on appelle au XVIIIe siècle le royaume des mœurs et du goût. Ça, c'est un point à prendre en compte. Deuxième point à prendre en compte, se méfier des représentations qui sont forcément favorables à l'ordre, comme celle de ce tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Reims, où l'on voit la réunion des trois ordres, donc au seuil du temple de la loge, avec le représentant du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Car derrière cette vision favorable à l'ordre, la réalité est parfois tout autre. La franc-maçonnerie se considère comme l'art royal, comme un art libéral, et s'oppose aux arts mécaniques, notamment aux artisans, qui sont très rapidement, sinon exclus des loges, en tout cas cantonnés à des fonctions ou à des grades subalternes. Et on dénonce toujours les vils mécaniques par référence au vilain, à la roture. C'est un point aussi qu'il faut prendre en compte. Et l'autre forme, si vous voulez, d'exclusion et de resserrement du cosmopolitisme maçonnique au monde des aristocrates, c'est bien évidemment la question religieuse, puisque une expression du XVIIIe siècle est caractéristique, le chrétien, voilà le vrai franc-maçon. Donc vous voyez qu'on est très loin de ce que la franc-maçonnerie sera au XIXe siècle et au début du XIXe siècle, d'un anticléricalisme militant. Au XVIIIe siècle, c'est une sociabilité d'ordre, d'ancien régime, qui communie avec les règles de cette société et qui, du coup, borne ses contours à ceux de l'Europe chrétienne, comme on l'a vu précédemment dans les différents modèles de conception et d'organisation du corps maçonnique. Dans les années 1760, on peut lire dans un des règlements de loge de Marseille, notamment, que ceux qui ont, je cite, la circoncision pour baptême sont exclus du temple. Et là, on voit bien un élément caractéristique de l'altérité physique, la circoncision, qui distingue les juifs et les musulmans des chrétiens, et en même temps une altérité religieuse, deux religions du livre, qui se distinguent de la religion chrétienne. Alors, bien évidemment, on rencontre toujours des exceptions, toujours des exemples de tolérance, mais au sens restrictif que le terme a à cette époque-là. On supporte l'autre plus qu'on s'ouvre à lui, avec l'accueil aussi bien de frères juifs. On a des exemples, bien évidemment, aux Provinces-Unies ou en Angleterre, où on est plus tolérant avec eux, mais aussi en Russie, ou également des musulmans qu'on rencontre aussi bien dans les loges de Nantes que des loges de Paris ou des loges des Pays-Bas autrichiens, la Belgique actuelle, en provenance d'Algérie ou du Maroc. Mais les cas restent extrêmement rares, et lorsqu'on est physiquement proche de cet autre, avec un A majuscule, notamment près des régences barbaresques, c'est-à-dire Tunisie, Algérie et Tripoli, eh bien là, on a du mal à accepter sur un pied d'égalité, dans le temple de la fraternité, cet autre musulman ou mahométan, comme on dit au XVIIIe siècle. De la même façon, dans les colonies où règnent les règles du code noir, il est inimaginable d'accepter, bien évidemment un esclave, mais même un homme libre de couleur, facilement dans le ressort maçonnique. Et on rejette notamment ce qu'on appelle les sans-mêlés, qui sont pourtant au 32-34e, puisque c'est une question de généalogie, blancs. Mais justement, ceux qui posent problème à la société d'ordre, à la société coloniale, c'est les deux 34e restants, c'est-à-dire, entre guillemets, ce sang noir qui fait qu'ils sont difficiles pour la société d'Ancien Régime. On est avant l'abolition, bien évidemment, non seulement de la traite, mais de l'esclavage. On est avant les révolutions. Il est très difficile pour eux de les accepter comme des altères égaux, que l'on reconnaît comme frères après les épreuves de l'initiation. Donc au total, ce cosmopolitisme maçonnique a un succès extraordinaire, mais auprès d'un petit nombre, ceux qui comptent dans la société du temps. Il ne faut pas du tout imaginer qu'il soit porteur d'un projet social et religieux révolutionnaire qui viserait à réunir tout ce qui était par-delà les barrières sociales, culturelles ou religieuses. Pas loin de là, la franc-maçonnerie s'épanouit parfaitement dans la sociabilité de l'Ancien Régime, et c'est en cela que celle qui verra le jour au XIXe siècle et au XXe siècle représentera un modèle culturel et politique radicalement différent. Alors, au terme de cette exploration de l'Europe des francs-maçons au siècle des Lumières, le cosmopolitisme fraternel apparaît comme un phénomène ambigu, paradoxal, contradictoire. Il ne s'agit pas d'un univers en expansion qui serait conforme à celui des grandes découvertes du XVIIIe siècle. Il s'agit en réalité d'une Europe chrétienne, chevaleresque, mondaine, aristocratique et de ses extensions coloniales. Ces bornes sont des bornes sociales et non des bornes symboliques qui seraient propres à la franc-maçonnerie. Ces bornes sont celles du royaume européen des mœurs et du goût, dans lequel la franc-maçonnerie milite activement pour offrir aux élites une forme de sociabilité large, épanouie, avec ces théâtres amateurs, ces sociétés où l'on se retrouve entre frères et entre sœurs dans le culte de l'entre-soi. Cette sociabilité est donc celle d'une Europe aristocratique, d'ancien régime, qui en aucun cas n'envisage les révolutions de la charnière 18e-19e siècle, et encore moins l'universalisme militant qui caractérisera l'aile avancée de la franc-maçonnerie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle.